Quiconque ose défier la puissance de Mr. D doit être puni. Vous errerez désormais dans un podcast inconnu, jusqu'au royaume d'iTunes, où vos telex resteront inertes.
Non, pitié.
Eh mais j'ai rien demandé, moi.
Quid Novi, des telex antiques, mais pas en toc. Bienvenue dans le premier épisode de Quid Novi. Quid Novi, c'est un podcast court avec des news, un peu de culture et aussi un petit truc que l'on vous conseille. Pour m'accompagner dans cet épisode, je vous présente Péremptoire.
Salut.
Et Esferet.
Bonjour, bonjour.
Et oui, comme vous l'avez remarqué, Sanson n'est pas là. Quid Novi étant avant tout un regroupement d'amis et de chroniqueurs. Et les intervenants vont surtout varier d'épisode en épisode. Et cette semaine, c'est Esferet qui est avec nous.
Et oui.
Et ça, c'est la classe un peu quand même.
Je vous honore de ma présence.
Ah oui.
Moi, alors, pauvre esclave.
Ex-esclave de l'ATG, maintenant qu'on est libre moins
oui.
Pour l'été.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à nous rejoindre, en fait ?
Mais en fait, je faisais partie de l'équipe originelle, un petit peu, mais je n'étais pas du tout disponible pour l'épisode pilote. Du coup, voilà, je vous rejoins pour l'épisode 1.
C'est quand même le principal, l'épisode 1. Maintenant qu'on a essuyé tous les plâtres,
c'est ça,
nous rejoins quand c'est déjà fait. Merci.
Passé, hein.
C'est bien, ouais, c'est bien, c'est sympa, ouais. Alors, avant de commencer l'épisode, on va tout d'abord commencer par quelques petits remerciements, surtout pour l'accueil que vous nous avez offert.
Un super accueil, sur
Twitter et sur le forum FreePod. Alors, je vais quand même remercier Piouf, In The Blix, DZ Rider, Hook Hook, Doritos79, Big Banner, Beautiful Loser, Ororo, Dr. Mephisto, et on lui fait un petit coucou à Dr. Mephisto.
Salut Doc.
Randall Flag, Arnaud Doucet, Laurent Doucet, le clan des Doucets. Mantine et Armos, et surtout Armos pour son petit commentaire de latiniste, on va dire, un peu exigeant, hein, qui nous rappelle qu'on ne dit pas quid novi, mais quid novi, selon la prononciation latine classique.
Voilà. Moi, ce à quoi j'ai envie de répondre quand même, que je voudrais bien un enregistrement de la période romaine pour qu'on me démontre que vraiment on le prononçait comme ça, puisque tout ce qu'on a, ce sont des textes.
Oh, tu chipotes.
Oui, non, je chipote un peu, ouais.
Je chipote, faut qu'on prenne soin de nos premiers auditeurs.
Et un grand merci à Yannick, au pseudo Twitter imprononçable, et surtout à Mr. D pour son petit coup de pouce lors du dernier apéro du capitaine.
Alors, un petit remerciement à ceux qui nous ont laissé un petit mot sur Twitter aussi, Sidartarus, Monsieur Smith, Podcast France, Pincho Vicara, Divine Me by Zero, Xivrian, Aperture Corp et Nirius. Et à ceux qu'on a oubliés, on vous remercie énormément de vos retours.
Alors, pour cet épisode, nous aurons tout d'abord une histoire d'oreille, des films de Minou, un petit tour avec Google, un musée virtuel, des photos d'OVNI et une compétition sportive en Bretagne. Alors, bon, c'est la Bretagne, hein. Vous
bien.
Êtes prévenus. C'est très... Oui, on verra. Ensuite, une rubrique culturelle de péremptoire. Sur quoi, cette fois-ci ?
Sur les bombes nucléaires, on va dire. On va rester large. Les anti-nucléaires vont adorer.
Moi, j'aime bien comment il ménage son suspense, surtout... On va rester large pour laisser les auditeurs
attendre un peu.
En suspens. Hein.
Ah, c'est péremptoire. Et on terminera par un petit nota bene en DVD et c'est moi qui le ferai. Les Telex, présentés en toge et en sandalette. Alors cette fois-ci, c'est moi qui vais commencer les Telex. Alors je vais vous parler d'un petit gadget japonais. Est-ce que vous connaissez cette mode qui consiste à ce que les femmes portent des oreilles de chat avec un serre-tête?
Tout à fait.
Ça vous dit quelque chose?
Oui,
j'en ai vu quelques images, mais j'aimerais bien en apprendre beaucoup plus, parce que je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Quel est l'intérêt déjà?
Absolument aucun, c'est d'être absolument mignon et tout cacaoui kikinou avec ses petites oreilles de chat sur la tête. Alors les Japonais ne s'arrêtent pas à un gadget un peu idiot, puisque cette fois-ci, ils ont eu l'idée de concevoir des oreilles de chat un peu plus spéciales, c'est-à-dire des oreilles de chat qui sont contrôlées par votre cerveau. Alors c'est quand même assez sympathique, puisque en fait vous allez avoir des petites oreilles de chat motorisées qui vont se mettre sur un serre-tête avec un petit capteur qui va se mettre sur l'avant de votre tête. Et le truc fun dans l'histoire, c'est que le petit capteur va faire bouger les oreilles en fonction de vos impulsions cérébrales. Alors en fait, quand vous allez être plutôt calme et détendu, les oreilles de chat vont se relever. Et quand vous allez être plus concentré et attentif, les oreilles de chat vont se rabaisser. Et si vous êtes dans un état intermédiaire entre les deux, les oreilles de chat vont se lever, se rabaisser un peu au hasard.
Et est-ce que ça marche ?
Oui, c'est ça. Est-ce que ça détecte vraiment bien les émotions ? Parce que...
Ah non, du tout. C'est vraiment un gadget à la con. Hein.
D'accord, je suis rassuré.
Ça bouge un petit peu. En fait, ça marche soi-disant avec les ondes cérébrales, mais en fait, ça marche plus avec un capteur de température au niveau du cerveau. Si vous êtes concentré, il y a plus de sang qui va monter au cerveau, donc le cerveau va être un peu plus chaud.
Si on est la tête en bas.
Vas-y, continue avec tes questions idiotes. Mais c'est une bonne idée, je sais pas. Parce qu'à mon avis, si on a la tête en bas, le serre-tête tombe. Mais bon.
Ah, c'est la solution de Barberousse.
Voilà, c'est comme un autre. Hein. Mais on va t'offrir ces lunettes, puis on va te lancer du haut d'un immeuble. On va voir si tu retombes sur tes pattes. Ou si tu restes la tête en bas avec les oreilles. On verra
bien. Je retombe sur mes pattes.
Ouais, bon, on fera un test. Oui, c'est vrai que tu es un chat, toi aussi, d'ailleurs, péremptoire.
Oui, mais seulement en temps libre.
Seulement sur ton temps libre, oui. Alors, ce petit gadget idiot, vous avez peut-être pu le voir à Japan Expo la semaine dernière. Et il faut savoir quand même que ça coûte la modique somme de 150 euros. Donc, 150 euros pour avoir l'air un petit peu classe ou alors l'air complètement idiot, c'est un petit peu cher, je trouve. Hein.
Aucun intérêt.
Péremptoire, c'est à toi.
Alors, une petite news rapide pour commencer. Alors, si comme moi, vous pensez qu'on peut apprécier Internet pleinement qu'en regardant des vidéos de chat, merci les vidéos de chat, vous apprécierez tout autant que moi le prochain festival qui arrive. Alors, le festival se nomme l'Internet 4 Vidéo Film Festival. Il aura lieu à Minneapolis le 30 août prochain. Et donc, quel est le but du festival? C'est de diffuser des vidéos de chat, tout simplement, des vidéos de chat qui ont fait le buzz. Alors, même s'il y a tant de choses à voir là-dessus, ça ne durera qu'une heure, c'est tout, quoi. Et donc, ce seront que des vidéos de chats sélectionnées par les internautes. Donc, de très grandes chances d'y voir le Keyboard Cat ou le Surprise Kitty.
Un Yen Cat encore en plus.
Les grands classiques des vidéos de chats. Dans la démarche, la créatrice du festival explique que même si les vidéos sont vues plus de 20 millions de fois, ce sont des vidéos qu'on regarde généralement seul. Elle veut faire cet événement une expérience commune inoubliable. Selon ses mots.
Alors, inoubliable, ce sera le mot, je pense.
Oui, mais j'irai bien quand même. Alors, petite parenthèse, la légende raconte que la popularité des chats sur Internet avait commencé au début des années 2000, quand des blogueurs influents, déjà, postaient des photos de leurs chats tous les vendredis. Donc, on revient de loin. Et pour rappel, 4chan a aussi créé le jour spécial, le Cat Day, qui a donné naissance par la suite au LOLCAT. Donc, je vous le demande, juste une heure de festival le 30 août prochain aux États-Unis, est-ce que ça vaut le coup?
Ah, c'est un peu loin les États-Unis quand même. Hein.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Faire un festival pour une heure de vidéo, bon, la question se pose.
Pour une heure de vidéo que t'as déjà vu sur YouTube en plus.
Ah, oui, mais c'est pour essayer une nouvelle expérience, les vidéos de chat en commun, tout ça finalement.
Après le crowdfunding, le crowdsourcing, le cat-founding, le cat-sourcing, je sais pas, c'est...
Je savais que ça ne plairait pas à Barberousse parce qu'il n'y aura pas la version Nyan 4 10 heures d'affilée. Désolé.
Ah, c'est dommage.
Pourtant, avec ça, tu remplis un festival entier.
Et le prochain Telex sera de S-Forêt.
Bon, et maintenant, c'est moi qui vais vous parler de Google Maps et d'activités sportives, puisque Google Maps propose une nouvelle option maintenant qui est d'afficher les pistes cyclables. Alors, donc, il y a trois layers différents qui sont proposés, celui avec simplement des sentiers, ou alors des voies vraiment réservées en ville, par exemple, et des routes adaptées, ce qui correspond à la plupart des cas, finalement. Donc alors, c'est sorti au niveau mondial, donc États-Unis plus quelques autres pays, mais bien sûr, moi j'ai regardé pour les endroits que je connaissais, c'est encore très loin d'être complet, mais bon, ça a
le mérite d'exister.
Enfin, la particularité d'exister, c'est ça. Et il y a quand même quelque chose qu'on peut faire pour ça, avec Google Maps Maker, qui est disponible en France depuis le mars de cette année seulement. On peut soumettre soi-même ses trajets et ses itinéraires à vélo notamment, du coup. Et en fait, cette petite news m'a fait penser à autre chose, c'est que, comme vous savez, en ce moment, c'est le Tour de France, et vous, dans votre petit salon, rêvez sûrement de pouvoir faire les mêmes circuits que les coureurs.
Je rêve d'être maillot jaune.
Et c'est Proform, du coup, qui a sorti un vélo d'appartement couplé à un petit boîtier qui se connecte à Google Maps, et il y a 10 étapes du Tour de France qui sont accessibles, notamment, sur ce truc. Donc, il y a l'application iFit qui est couplée au dispositif. Et du coup, ça permet de faire du vélo. Donc, ça reproduit les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que si on a une montée, la roue va être freinée exprès pour avoir plus de mal à pédaler, à l'inverse dans les descentes. Et puis, je ne sais pas trop comment est-ce que ça peut simuler un sentier de cailloux par rapport à une route. Mais bon, en tout cas, donc c'est là, il y a le petit appareil qui est quand même vendu 2000 euros.
Ou quand même.
Plus l'abonnement à l'application. Voilà, donc il faut être motivé pour vouloir faire du vélo dans son salon. Mais ça permet de faire les mêmes étapes que les coureurs du Tour de France.
Est-ce que ça marche avec Google Maps? Tu te mets devant l'écran du PC, tu pédales, puis tu avances sur les pistes cyclables de Google Maps.
Alors ça, je n'ai pas essayé, mais en tout cas, ce n'est pas écrit dans l'article puisque je n'ai pas acheté l'appareil, mais tu peux mettre n'importe quel itinéraire, c'est-à-dire l'itinéraire que tu fais tous les jours, bon je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, ou tel itinéraire, comme ça tu t'as les mêmes caractéristiques pour t'entraîner, par exemple, avant d'y aller. Ou quoi. Mais bon, par contre, t'as pas la vidéo avec le Street View qui défile en 360.
Ah, c'est dommage, avec le Street View, avec la voiture qui vient d'écraser le cycliste, en plus, ça aurait pu être... Non, même pas. Voilà,
voilà. Mais c'est que la version 1, tu peux proposer, je suis sûr, plein de trucs à Google.
Plein d'options, avec un iPhone, quand tu tombes par terre, hop, ça prend une photo et ça voit le bus qui vient de te rouler dessus. Pourquoi pas, voilà. Ça peut être sympa.
Moi, j'aime bien, c'est un peu le tour de France à la maison.
Voilà, c'est ça.
Donc moi, je vais vous parler d'un musée virtuel qui se trouve sur YouTube. Avec les évolutions technologiques extrêmement rapides que l'on a par chez nous, et surtout depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on se rend compte que certains objets disparaissent complètement de notre quotidien. Il y a une dizaine d'années, on avait encore complètement des petites disquettes. Il y a 15 ans, on avait des baladeurs, enfin des baladeurs à cassette. Je parle de ça pour les plus vieux d'entre nous. Les plus jeunes ne peuvent pas connaître ça.
Les cassettes, je sais pas ce que c'est. Hein. Je sais pas si péremptoire, tu vois.
Non,
mais, moi, ça
non, mais je connais pas les cassettes. Magnétoscope, c'est quoi ça?
Bande de monstres. C'est vraiment tout raté. Et en fait, YouTube vient d'ouvrir un musée spécial. C'est le musée des objets obsolètes. C'est-à-dire que YouTube va vous présenter pendant quelques petites vidéos les explications de certains objets et comment ils marchent. Alors vous allez avoir par exemple la vieille disquette, la grosse disquette toute souple à remonter en 1960. Vous avez un lecteur de cassettes, enfin les cassettes que vous ne connaissez pas, un phonogramme, les vieux téléphones, le fax, etc. Tout ça pour en quelque sorte garder une mémoire vivante des vieux objets, des vieilles utilisations qu'on pouvait avoir à l'époque. C'est pas si mal, c'est plutôt intelligent, et c'est fait dans une petite ambiance années 70 avec une voix un peu robotique. Ça fait très SF 1984 quand même.
Alors moi ça me rappelle la vidéo qui était sortie, on montrait des vieux objets à des enfants.
Oui.
Je sais pas si tu t'en souviens, on montrait des...
Ça
des
doit être Kids React.
4 ou 5 heures. On montrait quoi aussi? On montrait des vieux jeux vidéo, des vieux jeux de Mega Drive et tout ça. Ils pensaient que c'était un appareil photo, ou les disquettes aussi, ils pensaient que c'était un appareil photo. Donc c'est assez marrant de voir ça.
La vidéo s'appelle Les enfants et les vieilles technologies et c'est disponible sur YouTube.
Allez, une news plus sérieuse, parce que les chats ça va 5 minutes quand même. Alors, petit remerciement au doc Mephisto qui a trouvé cette news. Merci doc, l'homme de long. Alors c'est une affaire dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière. Je vais parler de l'OVNI de la mer Baltique. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Alors la mer Baltique c'est à peu près au nord de l'Europe. Alors l'OVNI de la mer Baltique.
Et l'OVNI, moi ça me fait penser à Joël Ménard, mais à part ça...
Non, on veut que des bons souvenirs ici.
Oh, c'est méchant. Alors pour rappel, il y a un an, il y a une petite équipe d'explorateurs suédois qui avait détecté avec leur sonar une sorte de disque au fond de la mer, une disque de plus d'une cinquantaine de mètres de diamètre. Et figurez-vous, il y a eu des développements dans l'affaire, parce que les premières photos du supposé OVNI ont commencé à apparaître. Alors c'est surtout des photos du sonar, quoi. Alors au terme d'une plongée, les livreurs ont livré leurs premières expériences, leurs premières impressions quant à ce disque, et un plongeur explique qu'il a vu un objet qui ressemblait à un gigantesque champignon avec des bords arrondis, et une ouverture en forme d'œuf sur le sommet, donc vraiment un cliché de la soucoupe volante. Alors il s'est expliqué qu'il y a une sorte de sillon de 300 mètres que l'objet aurait creusé derrière lui en s'écrasant.
Oh là.
Ouais. Donc il déclare aussi n'avoir jamais vu ça de toute leur carrière de plongeur. Alors on va rester pragmatique un instant, et avant de crier aux ovnis. Alors il est expliqué que l'objet pourrait très bien être un élément de défense anti-sous-marin qui avait été mis en place par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
D'accord. Donc, en fait c'est pas un ballon sonde, c'est une bouée sonde mais qui a été coulée. Ah, ils sont forts.
C'est à plusieurs centaines de mètres sous l'eau, donc. Et donc, selon un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, cette thèse est plus crédible que les ovnis, puisque d'autant plus que les Anglais avaient construit le même genre de dispositif à la même époque, et c'était également situé sous une grande route maritime. Et curieusement, ça c'est la meilleure chose, on va dire, c'est que sur l'image du sonar, ça ressemble vraiment au faucon millénaire. C'est ça, ça se trouve. C'est une bonne chose.
C'est un peu la classe.
Mais du coup, avec l'explication de où vient la grande traînée qu'on voit au fond de la mer.
Donc, soit c'est un ovni, et après, on va encore attendre un petit peu avant d'avoir les résultats, les données. Il y a plein de données qui sont en train d'être analysées. Ou sinon, c'est l'objet anti-sous-marin qui avait été placé par les Allemands pendant la Seconde Guerre.
Genre en le tirant, qu'ils ont fait une
grande... En tirant, soit avec la marée qui a dû le tirer. À moins que ce soit un grand champignon de l'île mystérieuse de Tintin, je sais pas, qui ait pu couler.
Ce serait bien.
Ce serait rigolo quand même.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Ouais, bah tu nous donneras des nouvelles, on fera un rétro-télex
plus tard, sur le garde.
Avec plaisir.
Voilà, et maintenant c'est à mon tour de vous parler de... Alors, Comme Barberousse l'a dit en intro, il se passe des choses en Bretagne. Bon, alors là, on n'est pas dans une ville strictement bretonne, mais qui l'a été. On est à Nantes, et c'est le week-end dernier, le week-end du 14 juillet. Il y a un Quidditch Camp qui a eu lieu. Alors le Quidditch, pour ceux qui n'auraient pas suivi la grande mouvance Harry Potter, c'est le sport des sorciers à Poudlard, et qui joue donc dans des équipes à peu près équivalentes au handball, je crois, mais avec par contre des règles ultra tarabiscotées et qui ont été inventées pour l'occasion, parce que ils jouent sur des balais volants. Donc c'est quelque chose que moi je m'attendais pas à voir reproduit, parce que
on
sait qu'il y a eu plein de balais reproduits du monde.
Alors est-ce qu'ils font ça sur des aspirateurs volants? C'est un moment qu'on aimerait savoir.
Et non, ils font ça sur des vrais balais, mais pour le coup qui ne volent pas. Et y a des gens qui le font vraiment. Il y a même des règles du jeu officielles qui ont été formalisées dans une université américaine. Bon, forcément, il n'y a que pour édicter les règles d'un sport. Mais il y a ouais aussi.
Tu veux dire que mais sur le terrain, ils marchent avec le balai entre les jambes.
D'accord.
Tout à fait.
D'accord.
Okay. Alors voilà, faut aller voir des photos pour y croire, parce que c'est bon, c'est quelque chose. Bon, alors je vous rassure quand même, le club de Nantes ne possède que 10 adhérents, donc
c'est déjà beaucoup.
Le monde n'est pas encore contaminé, mais ouais.
C'est... Ils ont même pas de quoi faire deux équipes, non? Si, c'est 5 ou 5.
Je sais pas, mais du coup, je pense qu'ils surtout ils accueillent, ils ont leur équipe et ils accueillent des gens des autres villes et des autres fédés pour jouer, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'est du coup il y a des espèces de cerceaux en l'air. Comme dans l'histoire originale.
Comme dans le jeu original, en fait.
Ouais, oui, voilà, comme dans le jeu de l'histoire. Et du coup, ils sont censés faire passer des ballons là-dedans, mais bon, pareil, les ballons ne volent pas, donc c'est bon. Après, quand on n'a jamais testé la version balai volant, peut-être qu'on s'éclate bien.
Ah, ce sera testé peut-être un jour, mais c'est quand même intéressant qu'un monde imaginé comme ça puisse donner un jeu en vrai. Il y a quand même une grosse communauté qui vit autour de ce genre d'univers.
Ah, mais carrément. Alors maintenant, peut-être que c'est un petit peu retombé, mais il y a encore, enfin, au moment où les livres n'étaient pas tous sortis, où tous les films n'étaient pas réalisés, il y avait une énorme mouvance, même en France, avec une fanbase ultra active qui faisait plein de choses. Je peux vous dire que j'en ai fait partie, mais à coup le pas. Mais
c'est la passion. Non, c'est ça.
D'ailleurs, je le regrette pas, je le revendique. Et voilà, enfin, je me rappelle qu'on faisait des. Alors, ça va peut-être plaire à Péremptoire. On adaptait les exercices de Loulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle qui avait été fait au milieu du 20e avec des. Ouais. Enfin, c'est des contraintes appliquées à des textes, et des contraintes d'écriture. Et on reproduisait des chapitres avec l'écrire sans la lettre E ou changer le point de vue du personnage. On s'amusait bien, et donc il y avait plein de choses. Et du coup, j'ai été voir, il y avait un site qui s'appelait lagazettedusorcier.com.
Comme dans le livre, en fait.
voilà, comme dans le livre. Et ça existe toujours. Et il y avait même le premier podcast que j'ai écouté vient de la Gazette du Sorcier.
Je pense que c'est beau d'assumer, je trouve. C'est admirable.
Non, mais ouais, c'est marrant cette histoire, parce que en ce moment, c'était plus il y a 4-5 ans, il y avait un mouvement musical qui s'appelait le Wizard Rock, qui était tiré d'Harry Potter, et c'était que des chansons qui parlaient d'Harry Potter. Alors il y avait des noms de groupes comme Drago and the Malfoy, il y avait Harry and the Potter, c'était que des chansons sur des personnages, ou même sur Dobby, t'avais des chansons sur Dobby, t'avais des chansons sur Rock, c'était assez bizarre à voir, absurde.
Et vous pouvez toujours voir encore à Japan Expo aussi. D'ailleurs, il y a pas mal de stands qui vendent encore des baguettes de sorciers, vraiment tirées d'Harry Potter, etc. La communauté est vraiment encore très vivante, et tout ce qui est autour est vraiment encore très vivant.
Oui, et puis il y a aussi dans les phénomènes que j'ai oublié de mentionner, il y a ce qu'ils appellent les Potter Fictions, avec c'est les fanfictions bien connus, mais du coup adaptés au monde Harry Potter. Il y a même un nom qui a été créé pour tous ces écrits-là.
Doit y avoir des fictions érotico-gays entre Harry Potter et Malfoy. Oh mon Dieu, non.
Ouh oui.
Au secours.
Non, mais il y avait.
Il y a des choses.
Il y avait une fanfiction entre Gordon Ramsay et Harry Potter qui faisait la cuisine. Donc,
Je sais pas pourquoi, celle-là, je la veux. Je dis ça, j'y arrive.
Te retrouver le toit.
Ça peut être marrant. On mettra ça en commentaire. Ça peut être très rigolo, ça.
On peut encore aller les lire, je pense. Hein. D'ailleurs, il y a un forum encore actif. Du coup, je suis allé vérifier pour l'occasion. Il y a même une sous-rubrique du forum qui s'appelle Ouli Potter, avec des posts qui datent encore, genre du 17 juillet 2012, c'est-à-dire d'il y a deux jours. Quoi. Donc,
On peut dire ce qu'on veut. J.K. Rowling a quand même créé un univers vraiment très intéressant.
Ah, ça, c'est sûr, ouais.
T'es prêt, Péremptoire ?
Ouais, je suis prêt.
Chut, c'est la rubrique culturelle de Péremptoire.
Ah, merci Barberousse, c'est mon jingle préféré. Alors, donc,
privé
aussi,
joke.
Je vous l'avoue. Si je vous demande ce qui s'est passé le 15 mai dernier, vous me dites.
Le 15 mai, c'était pas la fête du Muguet déjà?
Non.
On n'était pas loin des élections?
Ouais, tout à fait.
C'est le passage de relais entre Nicolas Sarkozy.
Voilà, exactement, c'était la passation de pouvoir. Donc le 15 mai dernier, c'était la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et le nouveau président François Hollande. Et donc qu'est-ce qui se passe au moment d'une passation de pouvoir? C'est, il y a entre autres, la transmission des codes permettant l'utilisation de l'arme atomique. Et donc c'est un truc assez codifié, la transmission des codes se fait en tête-à-tête à l'abri des regards, et c'est une tradition censée respecter la continuité de l'État. Mais comme vous en doutez, c'est un protocole hyper strict qui encadre la passation, et il peut y avoir des ratés quelquefois. Alors, aux États-Unis, le protocole est quasiment le même. Mais pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement parce que malgré toutes les mesures de sécurité mises en place, on en arrive encore à avoir des problèmes. Pour preuve, en 2000, Bill Clinton avait perdu pendant 4 mois la carte digitale contrôlant le code de la bombe nucléaire.
D'accord, bon, en fait, ouais. Voilà, et il l'avait pas perdu dans un pressing à tout hasard.
Non, mais je parle de pressing juste après. Alors bon, c'est pas proprement lui qui avait perdu les codes, mais c'était plutôt son collaborateur qui en avait la responsabilité. Donc forcément, on peut se demander pourquoi personne ne s'en est rendu compte. C'est tout simplement parce que chaque fois qu'un responsable du Pentagone venait pour faire le contrôle de routine, c'est tous les mois, il y a un contrôle de routine pour vérifier que la carte est bien là, le collaborateur arrivait et il faisait « Monsieur Clinton est en réunion urgente, mais il a les codes sur lui, vous inquiétez pas, vous pouvez repartir. »
La vieille excuse. Oh là 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 là.
Bon, inutile de préciser que...
Alors quand tu parles de protocole ultra sécurisé, je m'attendais à des trucs un peu plus...
Ça, c'est juste les protocoles de routine.
Ah
ouais,
ça,
hein,
c'est la routine.
C'est la passation.
Ça.
Oui, d'accord. Ah oui, ouais. Oui, pardon.
Mais, inutile de dire que le collaborateur en question a été viré juste après. Donc, bien évidemment, Clinton n'est au courant de rien, mais le problème, c'est que tous les 4 mois, les codes de la bombe doivent être changés. Et on s'en est rendu compte à ce moment-là, que personne n'avait des codes, et là, c'était le scandale le plus total. Alors, une autre version aussi assurait que c'était Clinton qui avait bien perdu les codes suite à un scandale avec une certaine Monica Lewinsky.
Oh, une histoire de laverie, de robe, je sais pas.
De cigare aussi, je crois. Mais je vais pas m'y attarder. Alors, évidemment, l'histoire est assez hallucinante, on pourrait largement se moquer des États-Unis pour ça. Oui, on pourrait se moquer s'il ne s'était pas passé la même chose en France. Alors, on raconte qu'en 1981, après la victoire de François Mitterrand pendant la passation de pouvoir, Giscard d'Estaing avait bien évidemment remis la petite carte avec le code nucléaire à François Mitterrand. Seulement, François Mitterrand, que fait-il ? Un peu étourdi, il glisse la carte dans la poche de son costume, et le soir même, il envoie le costume au pressing.
Il ne
s'en rend compte vraiment que le lendemain matin, et là, c'est la panique. Des agents sont envoyés en quatrième vitesse pour récupérer le costume. C'est-à-dire la panique la plus totale à l'Élysée.
Oui, bah c'est une affaire d'État.
Mais comment elle est remontée, cette affaire, en fait ? Ça n'a pas été totalement secret, ou...
Alors, ce que j'avais lu, c'était un ancien, pas biographe, mais quelqu'un qui
très
était
proche
vraiment,
du président.
Très proche de ce qui se passait à l'Élysée, qui a ressorti cette histoire peut-être 15 ans après, dans un bouquin.
Ah, d'accord.
J'ai plus le bouquin en tête, mais je pourrais mettre le lien si ça intéresse.
Oui, ça devait être un proche de François Mitterrand qui avait raconté comment se passait sa présidence, et il avait dû ressortir ce petit dossier-là.
Parce que l'histoire était assez étouffée au début quand même, mais ça a fini par se savoir, un peu comme tout.
Je me demande si Chirac se traîne pas aussi une casserole comme ça. Oh,
bon,
peut-être.
Je pense.
On sera dans 15 ans. Donc t'as fini avec ta rubrique ?
J'ai fini.
Alors, on va passer tout de suite au Nota Bene. Nota Bene, ce qu'il vous faut voir, lire, regarder et écouter. Alors Nota Bene, derrière ce titre un peu étrange, en fait, se cache une rubrique de conseils. Un conseil sur, on va dire, une œuvre culturelle que nous allons vous inviter à regarder. Regarder, voir, écouter, lire, au moins vous renseigner à ce sujet, parce qu'elle nous paraît importante. Et cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Alors pour cet épisode 1, dans le thème Peplum, je vais vous proposer de regarder Ben-Hur. Est-ce que vous avez déjà vu Ben-Hur ?
Je dois dire que non, mais j'ai un petit peu honte.
Ah bah ça va être l'occasion. Alors pour présenter un petit peu le film, je vais vous dire que Ben-Hur est sorti en 1959 et que c'est un film de William Wyler. C'est un peplum basé sur le roman Ben-Hur, une histoire du Christ, de Lewis Wallace, paru en 1880. Ça date pas d'hier non plus. Hein. Et c'est un des films aussi les plus primés au monde, puisqu'il a reçu en tout 11 Oscars. C'est pas rien quand même. Alors Titanic, il peut s'accrocher. Hein. Le film a quand même coûté la bagatelle de 15 millions de dollars, ce qui était vraiment énorme pour l'époque.
C'était énorme à l'époque.
Dans la fin des années 50, c'est absolument énorme. Alors en star principal, on a quand même Charlton Heston qui joue le rôle de Ben Hur. Et il faut savoir que dans tout le film, Charlton Heston va croiser une certaine personne deux fois. Et ça va être les deux moments les plus importants de sa vie. Un qui vont l'envoyer vivre, on va dire, son aventure, sa galère incroyable. Et une autre fois qui va finalement le faire remonter du plus bas de la pente où il était et le rendre le plus heureux du monde. Et cette personne, c'est Jésus. C'est le Christ, tout simplement. Mine de rien, Ben Hur, c'est l'histoire du Christ, mais qu'on voit de loin en suivant l'aventure de Ben Hur. Alors, pourquoi je vous le conseille? Parce que c'est d'abord un film à grand spectacle, même s'il reste, c'est un spectacle des années 60, il est très très marqué par le style et les acteurs de l'époque, mais il reste incroyablement vivant. Il y a des décors vraiment épiques, on compte plus de 300 décors différents pour le film. C'est absolument... c'est hallucinant. Un nombre de figurants, pareil, complètement hallucinant. Rien que pour une des scènes finales de course de char, il y a eu jusqu'à 15 000 figurants pour un seul plan. Des vrais figurants, c'est pas du copier-coller sous Photoshop de 1960. Hein.
Oui, c'est ça.
Pour une scène de 30 minutes de course de char. Ils ont vraiment recréé un colisée avec des animaux, des chevaux, la course de char vraiment au complet. Ça leur a coûté une pognon incroyable. Et aussi incroyable qu'on puisse l'imaginer, ça rend extrêmement bien à l'écran. On a vraiment une chose très vivante et qui est loin du carton-pâte qu'on peut avoir actuellement, avec des effets spéciaux un peu ratés. On a vraiment quelque chose je vais pas dire une reconstitution, c'est vraiment très très fort et c'est extrêmement bien fait. Alors faites attention si vous voulez le regarder, c'est quand même un film de plus de 3h30, divisé en 3 actes. Je me le suis commencé un dimanche soir à 22h30, je me suis dit hop allez, 1h30 jusqu'à minuit, et mauvaise petite erreur de ma part, j'ai terminé à 1h30 du matin. C'est un petit peu violent, mais ça reste vraiment un très 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 bon film. Avec une bande originale composée par Miklos Rosa, auquel je rends hommage ici, puisque j'ai un petit peu pompé ces différents morceaux pour réaliser les jingles de Queen Novi. Alors quelques petites anecdotes aussi sur le tournage. À la sortie du film, en fait, il existait déjà une expression française qui était « Arrête ton char, Ben Hur ». Cette expression ne venait pas d'arrêter son char, c'est H-A-R, le char, le véhicule, mais « Arrête ton char », c'est H-A-2-R-E, au sens de charrier, se moquer de quelqu'un. Et suite à la sortie du film, le sens a été changé dans l'expression populaire qui est devenue « Arrête ton char, le véhicule, arrête ton char, Ben Hur ».
Je suis Ben Hur Marcel, garagiste. Président de l'Union des commerçants.
Il y a quand même une petite influence. Autre chose, afin d'éviter que les décors soient réutilisés sans permission de la production, la production de la MGM a décidé de détruire tous les décors à la fin du tournage. Les décors de 300 sites différents. Ils ont décidé de tout simplement tout dégager pour éviter que ce soit réutilisé ailleurs. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment de très très beaux décors. Mais heureusement, le film est ressorti en Blu-ray l'année dernière. Il doit être vraiment à plus très très cher maintenant. Alors si vous pouvez vous le procurer, je vous le conseille. En plus, le film divisé en 2 actes, vous pouvez diviser la vision par 2. Ça se fait très très bien. Alors mon conseil de cette semaine, c'est Ben Hur.
Alors juste pour la petite anecdote, on dit aussi que pour la scène de la course de char, c'est la scène qui a nécessité le plus grand nombre de rushs dans l'histoire du cinéma. Je sais pas si c'est vrai, mais j'en avais entendu parler. Donc. C'est un petit point à préciser quand même.
Il a aussi dit que la scène finale, la fameuse course de char dont tu parlais, a aussi exigé 5 mois de préparation et plus de 78 jours de tournage.
Ah oui, quand même. Et dure combien de temps la dernière scène?
Allez, on va dire 20-25 minutes. Mais c'est vraiment du grand spectacle. Il hein. Y a des morts. Si vous avez l'occasion après de voir Gladiator. La scène de fin, la course de char, fait vraiment minable à côté. Et pourtant, Gladiator, c'est des années 2000. Il y a vraiment un côté très faux. Alors, je vous conseille vraiment de regarder Ben Hur.
Je pense que je l'ai
bien vendu. Hein,
Je vous passerai le DVD à l'occasion. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @quidnovipdc, QUIDNOVIPDC. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le forum Freepod, sur la page SoundCloud. En attendant la prochaine émission, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous remercie vraiment et on vous dit tous à la prochaine fois.
Merci, à la prochaine.
Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs ?